Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, ou rebonjour. Je voudrais, ce matin, suite à une annonce que j'ai faite il y a 15 jours, 8 jours, enfin je l'ai répété, nous entretenir, enfin partager avec vous un sujet qui est certainement de première importance, parce que après le culte, pour ceux qui le désirent, nous allons avoir un temps de prière, de jeûne et de prière, dont l'objet est précisément, eh bien, la famille, les enfants. Et il est important peut-être d'étayer justement ce sujet, parce que j'aimerais apporter devant vous un exposé biblique, lucide et réaliste, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui s'agitent ou qui agitent, mais le plus important, c'est quand même l'homme au cœur de ce monde. À travers ce que nous sommes, nous, à travers nos enfants qui vont devenir des hommes, à travers toutes sortes de choses qui ont quand même une importance primordiale, plus que ce monde matérialiste dans lequel nous vivons. Mais ce monde matérialisme reste un moyen et non un but. Et une famille, des enfants, ça reste véritablement le but de notre humanité. Par-delà, naturellement, la vision que nous pouvons avoir si nous sommes chrétiens, eh bien, d'un autre monde, d'une autre espérance. Mais finalement, eh bien, ça se prépare ici-bas. Alors, ce réalisme, j'aimerais le traduire à travers des mots simples de la Bible, et c'est une constatation de fait, je ne l'ai pas inventé, ça pourrait être relayé par tous les sociologues de la Terre qui nous diraient la même chose, constatation de fait, et je ne veux porter aucun jugement et apporter aucune culpabilité dans ce qui va être dit. Vous comprenez bien, hein, parce que la responsabilité elle est renvoyée à chacun. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous sommes à même peut-être de faire davantage, mieux, en comptant sur la grâce de Dieu, et simplement rappeler que la famille humaine, la famille d'aujourd'hui, moderne, a de multiples visages. Alors il y a celle classique que nous connaissons, et puis on parle aussi aujourd'hui de, non beaucoup de fois, et très souvent, de monoparentalité. Ça, c'est un fait hein, d'aujourd'hui. C'est comme ça. Tout simplement, où les parents élèvent seuls des enfants, particulièrement le rôle de la maman qui se trouve seule, parce que ça revient souvent à la maman. Il y a eu dans l'histoire des faits de guerre où il y avait des veuves qui élevaient des grandes familles, des familles nombreuses, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le problème reste le même. On est seul pour élever des enfants. Voilà. Et puis, ce que j'appellerais moi-même, vous m'excuserez, mais c'est pas, vous le trouverez pas, donc, ça sera certainement pas homologué à l'Académie française, mais l'ortho-parentalité. C'est-à-dire que, où il n'y a plus de parents. Où il y a peut-être des parents virtuels. Où les parents sont complètement inexistants, même s'ils existent. Et, tout simplement, où il y a la substitution par les pouvoirs publics pour élever ses enfants. Alors, c'est vrai que tout ça, ça complique la chose, et je ne parlerai pas naturellement d'autre chose que peut-être vous pouvez imaginer, mais ce n'est pas le propos ce matin. La famille, et je voudrais commencer par là avec un sourire, la famille a ses succès et ses bonheurs. Quand même. Moi, s'il y a quelque chose qui m'horripile, c'est quand ça va bien dans notre monde, on n'en parle pas. On ne parle que ce qui va mal. Alors vous comprenez que tout cela, ça finit par... Alors moi, je voudrais quand même dire que dans l'histoire biblique, dans l'histoire des temps, dans l'histoire d'aujourd'hui, dans l'histoire des chrétiens qui on fait une expérience avec Jésus, il y a des choses qui vont bien. On va pas voir tout noir. Parce qu'il y a des choses qui sont belles. Il nous est dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Alors bon, regardons de ce côté-là aussi. Et c'est vrai que si on veut voir du côté négatif, on ne verra que le négatif. Mais que l'Église s'efforce un peu de regarder qu'il n'y a pas que ça. Même s'il y a une intoxication à haut niveau, ça ne veut pas dire que finalement, eh bien, il ne faut voir que cela. Alors, il y a aussi ces échecs. J'aimerais en parler pour que ça puisse nous servir de réflexion, ces échecs et ces déchirements. Parce que nous vivons dans un monde où il y a vraiment profondément une absence de repères. Et on ne sait plus tellement. Voilà, on ne sait plus. Il y a aussi par-dessus cela une déchristianisation de notre société occidentale. Alors, ça n'arrange pas les choses. Donc, je dirais simplement que la famille, un défi pour notre temps. Et ça nous concerne, nous, les chrétiens. Hein? Ça nous concerne, en premier lieu. Je commencerai par des histoires dans la Bible. Parce qu'il y en a. Des histoires, il y en a des histoires. Et quelle histoire ? Des histoires de famille, des histoires de père et de mère, des histoires d'enfants avec leurs parents, des parents avec leurs enfants, et puis. Et vous savez que ça commençait de cette manière. Vous ouvrez la première page de la Bible, enfin, chapitre 3, les premières pages de la Bible, et voilà que ça commence. Ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être merveilleux et parfait parce que les choses étaient faites pour être goûtées, parce qu'elles étaient très bonnes, excellentes. Mais ça commence mal. Il y a un père qui s'appelle Adam, oui, qui lui descend directement de ce père qui est en haut, créature de ce père céleste, dont le nom nous le retrouverons que dans le Nouveau Testament annoncé par Jésus, mais des siècles et des siècles après. Pour Adam, c'est, après la chute, c'est un Dieu qui devient inconnu, un Dieu qui est inconnaissable, un Dieu qui est invisible. On ne sait pas où il est, on ne sait plus où il est passé. Mais c'est l'homme qui est parti, c'est pas Dieu qui est parti. Alors, comme le souffle de vie, eh bien, s'est engagé, la carrière humaine est engagée, eh bien, Adam, il a des fils et des filles. Mais il a particulièrement deux fils qui sont nommés. Il y a Caïn et il y a Abel. Ce sont ses enfants, ses fils. Et ils sont différents. L'un de l'autre, c'est le jour et la nuit, si vous permettez l'expression. Et voilà que l'humanité va se séparer en deux. Il y a l'humanité du mal avec le crime et le sang, et il y a Abel qui est déclaré le juste. Voilà, ça commence par, comment pourrait-on dire, une division, une séparation. Hein. Non pas à cause d'Adam lui-même, bien qu'il y ait quand même quelques racines, oh, des grosses racines, mais des dispositions intérieures. Deux fils, deux enfants différents. Croyez bien que dans nos familles, il n'y a pas un enfant qui se ressemble. Premièrement, il y a des garçons et des filles, ça c'est sûr, hein, avec leur psychologie particulière. Mais il y a leur caractère, il y a leur tempérament. Quelquefois on dit, ah, il ressemble à son père, ou elle ressemble à sa mère. Comprenez, hein? Mais bon, il faut que ça soit dit gentiment et dans l'amour, hein, parce que si c'est pour se servir de tremplin, pour essayer d'envoyer à l'autre un message, ça ne sert à rien. Donc, Caïn, premier meurtrier de la terre, parce que il est jaloux, parce que il ne supporte pas la comparaison, parce que son frère, eh bien, a offert un sacrifice à Dieu qui est plus agréable. Alors lui, quand il constate, il dit, mais qu'est-ce que je suis dans cette affaire? Mais par contre, il a oublié une chose, c'est qu'il n'y avait pas mis son cœur pour faire cette offrande et cette adoration à Dieu. Et on peut dire que une famille comme elle, quand ça tourne mal, il y a une suite. Et la suite, nous l'avons jusqu'à nous. On peut se poser mille et une questions, mais vous avez déjà des réponses à travers. Eh bien là, ce premier pas de la famille humaine, et qui explique bien pour bien des raisons, eh bien le mal qui existe. Et puis, il y a une autre génération, des autres générations qui arrivent. Il y a Isaac, qui porte un nom extraordinaire. Le mot Isaac en hébreu, ça veut dire rire. Mais quand il s'agit finalement, eh bien, de sa parentalité, de sa paternité, il ne rit plus. Il a vraiment plus envie de rire. Isaac, il a deux fils, lui aussi, des jumeaux, Jacob et Ésaü. Alors ils ont chacun leur tempérament qui est décrit dans le livre de la Genèse. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'ai autre chose à vous dire. Mais il y a un problème chez Isaac, le patriarche, avec ses deux fils, au regard de ses deux fils. Isaac, c'est un brave garçon. C'est un homme formidable, un homme qui croit en Dieu. C'est un homme de paix, c'est un homme qui est là, eh bien, à ne pas agiter le monde autour de lui. Mais il a un gros problème avec sa femme, qui s'appelle Rebecca, mais on parle d'Isaac. C'est que c'est un homme indolent sur le plan de l'éducation de ses fils. Et à cette indolence, mes fils, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ce sont mes beaux garçons et tout ce que vous voudrez, ils font ce qu'ils veulent, mais le père dit, même s'ils font des choses en mal, c'est bien, on regarde pas ça, il faut vivre, il faut passer, que la jeunesse se passe, etc. Il est indolent. Et en plus, pour compliquer la situation, lui et Rebecca, son épouse, eh bien, ont des préférences. Il nous est dit dans un texte de Genèse, chapitre 27, Isaac aimait Ésaü parce que c'était un chasseur, un homme de la terre. Et il nous est dit que Rebecca avait un chouchou, si vous permettez, un petit favori, une préférence, c'était son petit Jacob. Alors vous mettez ça dans une famille, vous avez déjà un peu le contexte de ce qui va se passer. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que vous la connaissez. Vous savez ce qui s'est passé, hein? Bon, on s'arrête là. Et tout ça dans ce contexte de la famille d'Isaac, sur un fond de mensonge permanent. Vous connaissez l'histoire de les pots de chèvre, là? Et puis tout ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire pareille quand le mensonge s'y met? Le mensonge? Dans la famille? On se connaît bien, on n'a pas besoin de se mentir. Hein, dites donc. Ça, c'est véritablement hein, du verglas hein, sur la route. Et puis, on arrive à Jacob. Jacob, il a eu des fils certainement très turbulents. Mais il est arrivé qu'il nous ait donné le seul nom de la fille de Jacob, elle s'appelle Dina. D'accord? Je parle à des biblistes, vous lisez votre Bible très souvent, hein, naturellement. Sa fille s'appelle Dina. Et il y a une histoire quand même qui est assez étonnante, toujours dans le livre de la Genèse, c'est l'histoire de cette belle jeune fille, Dina, qui se trouve dans un milieu, tout l'environnement, ce sont des peuples païens. Et à un moment donné, comme elle n'avait pas trouvé de petite copine dans sa propre famille et puis dans ses amis de la même race, elle avait été voir les filles d'à côté, les filles des païens, du monde païen, du peuple païen à côté. Alors ça s'est bien passé entre les filles. Mais à un moment donné, il y a eu un garçon qui a posé ses regards sur Dina, et voilà, ils sont tombés amoureux l'un et de l'autre. Et puis il y a eu une histoire avec les frères de Dina qui, voilà, ont monté un petit peu les choses. Ça s'est terminé par un viol et par un meurtre. Bouh, pauvre Jacob. Pauvre Jacob. Histoire de famille. Bon, dont on entend encore parler, hein, quand même, encore aujourd'hui dans les journaux. Hein. Pas l'histoire de Dina, mais... voilà, comprenez. Hein. Attention aux fréquentations malsaines, parce qu'il y a risque de dérapage. Nos enfants, faisons attention. Un autre homme apparaît dans le livre des juges, il s'appelle Jephté. Ah, Jephté, c'est un homme de foi. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un vaillant héros comme Gédéon. Et il a une particularité, c'est que il est zélé pour Dieu. Mais il y a deux sortes de zèle. Il y a un zèle éclairé et un zèle aveugle. Il peut y avoir même un zèle fanatique. Et ça, ça ne doit pas avoir cours, ni dans nos églises, ni dans nos familles. À tel point que il va être nommé chef de guerre pour aller combattre les peuplades qui sont autour d'Israël, et à un moment donné, il va faire un serment téméraire. Il va dire à Dieu, « Si tu me rends vainqueur de mes ennemis, je reviendrai dans ma maison, et la première personne qui sortira de ma maison, je te la sacrifierai, c'est-à-dire je la mettrai à mort en ton honneur. La première, quand il revient de la guerre, la première qu'il voit, c'est sa fille unique. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis pas la suite. Zèle fanatique, pour nous dire encore que dans toutes les mesures de notre vie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit conjugale, faisons attention à un zèle qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu. Parce que là, on peut faire des choses terribles. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans ce zèle, je fais une petite digression, mais dans ce zèle qui a amené les pharisiens et les autorités de Jérusalem à crucifier Jésus en pensant qu'en crucifiant Jésus, il rendrait un culte à Dieu. Fanatisme, on en entend parler tous les jours dans notre société. C'est pour vous dire que il n'y a pas d'anachronisme. Le monde d'hier, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Rien n'a changé. Et au cœur de tout ça, ce sont des familles, ou des peuples, ou des nations. Famille pour nous. Il y a un homme qui est un grand prêtre en Israël, il s'appelle Élie, pas le prophète Élie, Élie, L-I, avec un E, pas de E. Hein. Il est sacrificateur. Et son problème à lui, c'est qu'il a aussi des fils. Ophni et Phiné, si ça vous rappelle quelque chose. Mais c'est un père qui est faible, comme Isaac. Il est en train de faire la démonstration dans sa vie de la permissivité coupable. On pourrait dire, si vous vous souvenez du terme, papa poule. Non, pas comme ça. Faut que je me remette en phase, hein, quand même. Papa poule. Ses fils, figurez-vous, ce sont des fils d'un sacrificateur, d'un prêtre d'Israël. C'est une notoriété religieuse. Et permettez-moi de dire, ses fils sont des vauriens. Et on pourrait dire, mais quelle éducation il leur a donné? Ah oui, ils étaient bien, les garçons, là, hein. Parce qu'ils profitaient de toute la situation, de la position de leur père, pour faire des choses innommables dont je ne vous parlerai pas. Vous pourrez le relire dans le texte, hein. Mais quand vous lisez le texte, ça vous prend un petit peu à la gorge en disant, mais comment ont-ils pu faire ça? Avec l'argent du temple, hein, avec les femmes du temple, avec toutes sortes de choses. Ils se sont comportés comme des goujats. Alors on est venu dire à Élie, le grand prêtre d'Israël, tu sais, tes fils, ils font cela. Nous sommes scandalisés. Pourtant, toi, Élie, tu es un homme. Tu es un homme de Dieu. Comment se fait-il que tes fils soient tombés si bas? Alors Élie va l'entendre, il va être profondément attristé de ce qu'il entend, parce que c'est le peuple qui vient le voir. Hein. Oui. Il va aller voir ses enfants en disant, « Oh mes enfants, qu'est-ce que j'ai appris sur votre compte? Mais c'est pas bien ce que vous faites !» Puis rien de plus, rien de plus. Ah là, permissivité, naturellement. Alors, vous savez, quand on regarde nos enfants comme des petits astres, on va au désastre. Ça, c'est sûr. Et je crois que nous avons besoin d'un équilibre. On va en toucher deux mots d'ici quelques instants, mais faisons attention. Faisons attention quand l'enfant est roi, quand il est sur le trône et que c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Attention! On l'a vu dans le cas d'Élie, ça se terminera très mal pour ses fils. Si je vous parle de David. David, qui est appelé l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est magnifique, David. C'est un homme extraordinaire, c'est un homme de foi, qui quelque part nous parle encore, hein, et quelque part nous enchante dans un certain sens, en disant, mais d'avoir la foi comme David, d'avoir l'amour de David qu'il avait pour son Dieu. Mais David, il faut le voir à la fin de sa vie, il a eu une vieillesse douloureuse. Et là, ça nous ramène à l'actualité. Attention aux familles multiparentales, ou tout simplement aux familles multiples. Ah oui, c'était dans l'Ancien Temps. C'était l'Ancien Testament. C'était sous une alliance où Dieu ne voulait pas, mais les hommes s'étaient permis. La polygamie, j'allais dire la bille, non, parce que c'était plus que ça. Quand vous voyez Salomon, là, on ne compte plus, hein. Mais c'était comme ça. Alors imaginez-vous entre les femmes entre elles, les épouses, Et puis les enfants qui étaient de plusieurs unions, imaginez-vous ce que ça pouvait donner. Et ça, c'était le problème de tout simplement de David. Et il y a eu, entre autres, quatre personnages parmi ses fils et ses filles. Il y avait Absalom, ah oui, qui a voulu renverser son père sur le trône. Il y avait Adonija, qui lui aussi a voulu renverser son père sur le trône. Et puis, il y a eu Amon, qui est tombé amoureux de sa demi-sœur, qui l'a... inceste, qui, pour se venger, a été tué par Absalom. Vous suivez un peu? C'est une affaire policière, hein? Non, mais écoutez, ça va, vous tenez le coup, hein, parce que j'ai encore d'autres exemples. Mais c'est pour dire. C'est pour dire. Alors, c'est terrible. Salomon, ensuite. Salomon, ou le salaire d'une paternité dévoyée. Parce que Salomon, il a bien commencé, mais il a très mal fini. Alors d'abord, par sa mégalomanie, par sa passion des femmes, par sa passion parce qu'il était devenu empereur, hein, il n'était pas seulement roi, c'était un empire. Et il n'a pas donné un exemple à son successeur qui s'appelait Roboam, parce que l'exemple vient d'en haut. Et je voudrais le rappeler à dessein ce matin. Vous savez, je ne veux pas dire que c'est tous les cas. Et il y a de bons parents. Mais quelquefois, ça peut nous échapper aussi. Il peut y avoir quelquefois des choses qui nous échappent en ayant fait tout ce qui était en notre pouvoir de faire. Mais en ce qui concerne Salomon et Roboam, bah écoutez, Roboam, il a vu que des trucs, il a vu que des choses qui étaient complètement négatives. Son père, son comportement, etc., etc. Et ben lui, il a fait la même chose. Et vous savez comment ça s'est terminé? Le bel empire d'Israël, dont le dernier roi Salomon, eh bien, ça s'est divisé pour des siècles et des siècles en deux. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et tout ça à cause d'un fils qui n'a pas eu l'exemple qui venait d'en haut. Tout simplement. Ézéchias, un autre roi dans l'histoire, ses fils étaient loin d'être des anges. Tout à l'heure, je vous ai mis en garde contre, finalement, eh bien, certaines situations caractérisant nos enfants, mais là, c'était pas des anges. Parce que si je vous cite deux noms de rois qui ont été fils d'Absalom, qui sont devenus rois en Juda, si je vous dis, parle de Manassé, et si je vous parle de son successeur à Manassé qui s'appelle Amon, il nous est dit qu'il n'a jamais paru de roi aussi mauvais, aussi ténébreux, aussi occulte, aussi idolâtre et aussi sanguinaire que ces deux-là. Et pourtant, Ézéchias était un bon roi. Et il engendrait des démons. Enfin, façon de parler, vous m'excusez, c'était des hommes, c'était des rois. Voilà. Alors, j'arrête là mon histoire parce que on pourrait aller très loin. On pourrait en parler. Mais bon, je ne vous ai pas dit tout ce qu'il y avait de bon et de succès dans les familles chrétiennes ou dans les familles de la Bible de l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'avais... Mais bon, notre petite visitation ou revisitation de la Bible, c'est justement pour introduire la réflexion suivante. Pourquoi avoir des enfants? On ne devrait pas se poser la question parce que c'est naturel, non? Ben, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, on peut compatir avec ceux qui véritablement, désespérément, souhaitent et aspirent à avoir des enfants et ne peuvent pas en avoir. Et ça, on peut leur accorder toute notre compassion, naturellement. Parce que c'est un problème pour un couple. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui disent « Moi, je ne veux pas d'enfants. Je n'aurai jamais d'enfants parce que je veux être libre. » Et c'est bien ce qui fait écho à la parole de Paul quand il dit « Mais sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. » Voilà. Alors bon, je ne porte pas de jugement, parce que d'abord, avoir des enfants, c'est un désir de Dieu. C'est un désir et qui remonte à la création. C'est une bénédiction, nous dit la Bible, et je ne vais pas vous citer des versets parce qu'il y en a plein. C'est un héritage, et je voudrais vous dire peut-être aussi qu'il ne faut pas oublier que avoir des enfants, c'est une école. Pour qui? Pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce que vous savez, avoir des enfants, ça nous discipline. Hein, vous en savez quelque chose? Les jeunes mamans, là. Oui, hein. Mais nous, on est des anciens maintenant. Hein. Mais bon, toujours est-il que ça, c'est, je pense, c'est bien quelque chose qui est tout à fait dans le plan de Dieu. J'en arrive à la deuxième question, après avoir établi un peu notre petit tour d'horizon biblique. L'éducation des enfants dans une famille chrétienne. On peut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de contrasté, de divers dans le monde, mais pour nous c'est une raison importante de pouvoir dire quelques mots. Si j'en juge d'après Éphésiens chapitre 6, et là peut-être que simplement et brièvement nous pouvons tourner quelques pages de notre Bible, Éphésiens chapitre 6, écoutez, et ça commence par « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Maintenant, ça s'adresse à l'autorité. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. » Ne pas oublier la suite, selon le Seigneur. Et non pas selon vos humeurs. Ça rime, mais c'est pas la même chose. Humeur et Seigneur, c'est deux choses différentes. D'abord, il est question d'une injonction pour les enfants. Obéissez. Et l'obéissance, ça s'apprend. C'est pas inné, hein. Ensuite, il est question d'honneur. Honorez vos parents. Parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine de notre vie. Des soins qu'ils ont pris pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui, avec souvent des sacrifices, parce que ça existe encore. Et ensuite, il est question de promesses de bonheur. Obéissez, tout simplement. Ensuite, d'honorer son père et sa mère. Quand le mot honorer, c'est pas seulement le mot aimer, qui est au-dessus de tout, mais il y a le mot honoraire, c'est-à-dire leur donner ce dont ils ont besoin financièrement, même au besoin financièrement, pour qu'ils puissent avoir jusqu'à la fin de la vie au moins le pain dont ils ont besoin pour vivre, honorés, honoraires. Comme eux, ils ont été, finalement, eh bien, ceux qui nous ont donné les premiers éléments de nourriture pour que nous soyons et que nous puissions nous développer. Mais tout ça, ça se fait dans l'amour, hein, naturellement. Et puis, père, n'irritez pas vos enfants. Parce que nos enfants sont pas nos souffres-douleurs. Ils ne sont pas... finalement, ce sont des petites personnes qui vont devenir des grandes, mais qui ont... Il faut former leur personnalité aussi. Et c'est pas... Et peut-être que dans ce temps-là, Paul avait peut-être constaté des choses où il y avait vraiment beaucoup de... Une rigueur extrême, on en reparlera tout à l'heure. Mais ne les irritez pas, parce que si vous les irritez, ils vont se révolter. Ça va faire l'effet contraire. Mais en les corrigeant... Corrigeant, c'est pas la massue, c'est pas le revolver. Hein. C'est pas tout ce que vous pouvez imaginer, hein, mais en les instruisant, corrigeant, les reprenant quand ils sont petits. Ça, c'est sûr que si vous avez des grands garçons ou des grandes filles de 18 ans, vous allez peut-être pas avoir la même méthode, hein. La fessée, il y a longtemps qu'elle est disparue, il me semble, non? Voilà. Et en les instruisant selon le Seigneur, selon les inspirations que Dieu nous donne dans telle situation, naturellement. Un autre point, un aspect, un devoir. L'instruction dans les principes de la foi, et pas seulement dans les principes contradictoires du monde, où chacun a son avis et chacun essaie, défait, refait, enfin, il fait comme il veut. Donc, une instruction des principes de la foi, et c'est d'abord l'exemple des parents et la souplesse d'application. C'est tout à fait ce que nous avons dit précédemment par rapport à la rigidité, la sévérité et la rigueur. Dans 2 Timothée, il nous est donné ce rappel, qui est aussi à prendre en considération, parce que il est certainement à prendre en compte. Il est dit ceci, chapitre 3, verset 14, cette parole toute simple, et ça c'est Paul qui dit ça à son ami Timothée, qui était un jeune homme, qui peut-être allait devenir père aussi Timothée à un moment ou un autre, il avait besoin d'apprendre ça pour lui, mais aussi pour enseigner les propres chrétiens de ces communautés. « Toi, dira-t-il à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Moi, ce que je voudrais, c'est que les enfants qui viennent dans l'église, qui viennent dans les clubs, puissent se souvenir les choses qu'ils ont apprises et qu'ils ont reçues. Hein. Qu'est-ce qu'il reste peut-être, hein, c'est la question. Reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, même pour les enfants, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou le petit homme, devenant, en devenir un homme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'instruction biblique. Voilà l'instruction évangélique. C'est un devoir des parents. Une famille chrétienne qui zappe sur ce qui peut lui être offert en service dans une église et qui passe à côté, je pense qu'il y a un manque. Mais bon, je ne juge pas, mais il y a un manque. Et il y aura un manque dans la vie. Et aujourd'hui, tout cela, ça gomme de plus en plus. Mais bon, Jésus disait à un moment donné, dans les villes qu'il visitait, Chorazim, Capernaum, il disait à un moment donné, ne me le reprochez pas, hein. Moi je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Alors après c'est naturellement eh bien de la responsabilité de chacun. Vous savez, on l'a vu, nous organisons des clubs d'enfants, il y en a un en ce moment. Nous organisons aussi des réunions de jeunesse, il y en avait une hier soir pour le démarrage de cette année. Nous avons des colonies de vacances, partout. Nous avons des camps de jeunesse en France et à l'étranger. Nous multiplions pour que, et nous avons dans l'année, des rencontres régionales, par exemple Bretagne, hein, ici ou là. Et je crois que, vous savez, il s'y fait des grandes choses. On voit des choses extraordinaires dans nos colos. On voit des choses extraordinaires dans nos camps de jeunesse. Et vous savez, ça les marque. Et si vous avez fait l'essai, vous verrez, quand vos enfants reviennent, ils ne sont plus tous les mêmes. Ils ne sont plus du tout les mêmes. Alors après, bien sûr, il faut persévérer. Mais, je le rappelle, parce que c'est un besoin, ne comptez pas quand il s'agit, ne comptez pas et ne calculez pas quand il s'agit de l'investissement lorsque vous mettez vos enfants devant une instruction de la Bible. C'est pas l'instruction du centre évangélique, c'est pas l'instruction du pasteur, c'est l'instruction de l'Évangile, comme Jésus nous a appris à le faire. Jésus a reçu des petits-enfants. Il est dit, ne les repoussez pas, quand les disciples sont dit, mais ils t'importunent. Non, laissez-les venir à moi, les petits-enfants, afin que je les bénisse. Mais ça, c'est la responsabilité des parents. En tous les cas, lorsque vous semez la graine de la foi dans le cœur de vos enfants, et combien le cœur d'un enfant est éminemment réceptif, mais vous semez son bonheur, votre bonheur, et véritablement une grande satisfaction. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Oui, quand l'enfant va grandir. Quand l'enfant va grandir. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On est d'accord avec ça? Moi, je vois bien la différence, hein. Nous aussi, nous avons des enfants. Entre ceux qui véritablement, eh bien, ont eu cette instruction, où les parents conséquents ont voulu donner. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelquefois des échecs. Mais c'est pas parce qu'il y a des échecs qu'il faut dire que tout le principe est mauvais. Je le dis au passage parce que ça me vient à la pensée en disant, bah oui, mais les camps, etc., etc. Oui, mais bon. Ça, c'est encore un autre plan. Autre aspect que nous pouvons aborder, c'est le contrôle des influences et des fréquentations. L'entraînement à faire mal. Alors, ça ne se passe pas dans l'église parce qu'on y veille, et heureusement, parce que là, ça serait vraiment dramatique. Mais vous savez que nos enfants sont sous ce principe que Jésus a dit à Dieu quand il a prié, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, sous-entendu, qui est dans le monde. » Alors, comme nous sommes ouverts à la société, nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas avec des gens avec des œillères en disant « Il n'y a que nous qui avons la vérité, il n'y a que nous qui pensons bien, etc. etc. » Et on garde nos enfants dans nos propres milieux parce qu'on ne veut pas qu'ils se contaminent, on ne veut pas qu'ils attrapent le virus Ebola, vous comprenez? Non, nos enfants sont dans nos collèges, public ou privé, selon le choix des parents. Ils sont dans les lycées, dans les universités, ils sont confrontés avec le monde tel qu'il est, et heureusement d'ailleurs. Parce qu'autrement, ils ne pourront pas se défendre. Hein. Ils n'auront jamais été exposés au virus. Alors, ils ne pourront pas faire d'antitoxines. Ils ne pourront avoir aucune défense. C'est pas pour ça qu'il faut les mettre directement dans... Non, mais ils sont confrontés à ça. Et moi, je pense que le rôle des parents, c'est aussi d'avoir un regard sur l'influence et les fréquentations. Parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde, et là encore, où vraiment notre société va de plus en plus vers une absence de l'absence des parents dans les maisons. Je ne juge pas. Écoutez, mes sœurs qui travaillaient, vous avez fait un choix. C'est votre choix. Je ne le juge pas parce que vous avez des besoins, parce que vous avez des implications, vous avez ceci et cela, etc. Moi, je ne veux pas juger. Mais il faut que nous pensions qu'il peut y avoir aussi des choses qui peuvent être, bien, des choses primordiales qui deviennent secondaires. Et l'absence, c'est quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est la société qui fait ça. Hein. Vous savez, je peux tout à fait comprendre, quand une femme se retrouve seule, qu'elle est abandonnée par son mari, elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle travaille. Hein. Et il faut qu'elle travaille, elle n'a pas le choix, c'est tout. Puis après, il y a des conditions, il y a des obligations, il y a toutes sortes de choses. Mais ce sont des réalités naturelles. Vis-à-vis de nos enfants en tant que chrétiens, nous parents, j'emploie deux mots, deux verbes, corriger et encourager. Corriger, il y a un mot redoutable qui veut dire derrière correction et punition. Moi, je voudrais vous dire que le sens n'est pas tant de punir, mais d'éduquer. C'est comme ça que d'ailleurs, dans les nouvelles traductions de la Bible, dans Hébreux chapitre 12, il est question finalement de la discipline. Et nos enfants, ils sont pas dans une caserne avec un père adjudant et une mère générale. Enfin bon, là, il y a un grand écart entre les deux. Non, nos enfants, ils sont dans une maison où il y a autre chose que cela, mais la correction est nécessaire. Quand on dit correction, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même régime. Hein. Pour un petit garçon, quand il fait sa comédie, quand il a 4, 5, 6 ans, et puis quand on a des pré-ados et puis des jeunes adultes, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est surtout le fait de pouvoir, quand ils sont sous notre toit, je dis bien sous notre toit, quand ils sont partis, c'est encore une autre chose. Comme ça se fait souvent aujourd'hui. Hein. Mais quand ils sont sous notre toit, il y a des règles dans une maison. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, il y a un respect, il y a des horaires peut-être aussi à respecter, parce que quand vous avez un garçon qui arrive à 2h du matin et qui commence à mettre la radio et prendre sa douche, c'est bien. Non, mais bon, quand même, voilà. Hein, j'en vois qui sourit parce que je pense que ça, vous avez connu l'histoire. Mais toujours est-il que ça fait partie de cela. Ça, c'est certain. Il y a des choses même dans les camaraderies. Voilà. Hein. Nous, notre maison, c'est notre maison. Hein. C'est tout. Voilà. On est d'accord. Vous pensez ce que vous pouvez deviner, hein, mais non. Et puis, c'est encourager aussi. Et dans l'encouragement, il y a des choses à dire. Dans Colossiens chapitre 3 et au verset 20, il est dit cette parole que je rapporte, que je restitue tout simplement 20-21, il est donné cette parole, Père, alors ça reprend parce que c'est les deux textes qu'il y a, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et quand ils se découragent, alors à ce moment-là, eh bien tout est propice. Moi je ne sais pas quelles étaient les conditions du fils prodigue quand il a quitté la maison de son père et qu'il lui a demandé sa part d'héritage, je ne sais pas. Mais toujours est-il que sa petite aventure lui a coûté quand même quelques brûlures, mais néanmoins il est quand même revenu à la maison converti. Alors, père, n'irritez pas vos enfants, serviteurs, ou plutôt, oui c'est ça la suite, 20-21, enfants, obéissez en toutes choses, voilà c'est ça ce que je cherchais, à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Toutes choses à vos parents, l'obéissance. Et vous savez, quand un enfant a appris à obéir à son père, sa mère, dans le respect, il va obéir à ses instituteurs, à ses professeurs, à tous ceux qui sont élevés en dignité et qui contribuent au bien de l'enfant ou du jeune homme ou de la jeune fille. Ils auront appris à respecter. Est-ce que vous croyez que nous vivons dans une société de respect? On pourrait peut-être qualifier d'irrespect monstrueux, hein, quelquefois. Ah, dites donc. C'est quelque chose. Moi, je dis que les pouvoirs publics ont fort à faire, hein. Mais bon, peut-être qu'ils ont contribué aussi à dire « Ah, c'est pas grave, vous savez maintenant, voilà, ceci et cela, mais tout le monde est tributaire. Hein. » Parce que les lois qui sont faites aujourd'hui, elles ont été faites en raison des malfaiteurs, mais ce sont les gens honnêtes qui sont en train de payer la facture. Parce que les malfaiteurs, ils n'en ont rien à faire. Je dis des choses qui peuvent être quand même assez dangereuses, n'est-ce pas? Je voudrais aussi, brièvement, il y a des sujets dangereux d'éducation. Je vous ai donné ce principe, c'est que l'absence de règles produit l'anarchie et le désordre. Ça, on le sait dans un état, on le sait dans une famille. L'excès de règles provoque ou produit l'asphyxie et la rébellion. C'est classique. La première chose dans ces principes dangereux, enfin principes, ces sujets dangereux, c'est la révolte et l'irrespect dont je parlais tout à l'heure. Parce que l'autorité est bafouée. La deuxième chose que je considère comme intolérable par rapport aux enfants et vis-à-vis des parents, c'est le mensonge. Vous savez, quand les parents se mentent, l'exemple vous le donnez à vos enfants, et eux, ils vont se mentir entre eux, et ils vous mentiront. Le mensonge n'a pas le droit et n'a pas lieu de cité dans une famille. Un enfant qui casse un vase, malencontreusement, nous adultes, nous pouvons le faire. Et quelquefois, nous ne savons pas évaluer la valeur et la dangerosité, peut-être de la faute, pas la dangerosité, mais la gravité de la faute. Et quelquefois, parce qu'un enfant a cassé un verre, eh bien voilà, on va le... Et puis, quand il va mentir, on lui dira rien. Eh bien, écoutez, hein, le mensonge, c'est pire que tout. Hein. La méchanceté préméditée. Vous savez, ils se font pas de cadeaux hein, dans les cours d'école, les petits. Hein. Waouh ! Nous, on était à l'école aussi, hein. Bon, on a connu ce que c'était, mais aujourd'hui, je pense que ça a pris encore des proportions terribles avec tous les moyens, la technologie, etc., etc. Ils ne sont pas de cadeaux. Alors là, c'est une chose, mes frères et sœurs, quand il y a un enfant qui est méchant, quand on voit que c'est prémédité, là, je pense qu'il est urgent de le reprendre. Parce que s'il est méchant maintenant, quand il sera homme, il sera méchant. Il sera méchant avec vous, mais si un jour il a quelques pouvoirs, quelques autorités sur d'autres hommes, je peux vous dire que si un jour il est patron, il va en faire baver à tout le monde. Parce que la méchanceté, c'est quelque chose qui est vicieux, c'est au fond du cœur de l'âme. L'orgueil et l'égoïsme. Eh oui, on a tous une petite part hein, de « c'est moi hein, », mais bon, ça se corrige aussi. Dont on parlait tout à l'heure d'enfant-roi. L'enfant-roi, enfant, parent, esclave. À cause des caprices et des fantaisies. Si on sait tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais bientôt terminer. L'enfant sacrifié sur l'autel de la réussite sociale des parents. C'est vraiment au cœur de notre société aujourd'hui. Ah oui. Vous savez, on veut réussir, mais on veut réussir quoi? Moi, je suis profondément attristé parce que j'ai vu des situations, encore dernièrement, d'un homme qui a réussi partout, en tout, et pour tout. Avec une vie assez aventureuse, peut-être même tumultueuse. Et quand je l'ai revu après des décennies, je pensais que j'allais le trouver en famille, dans une propriété magnifique et immense. Cet homme était plus que tout seul. Tout seul. La réussite, la promotion, grimper les échelons. Se retrouver dans des situations, que ce soit le commerce, les affaires, la politique, et toutes sortes de choses, pour se retrouver seul dans la vie. Ben vous savez, il y a de quoi pleurer, mes frères et sœurs. Et quelquefois, ce sont les enfants qui en font les frais, et quand on arrive à un certain âge, eh bien on se dit, mais j'ai raté l'essentiel et le principal. Moi, si vous êtes d'accord, hein, mais... J'ai raté le principe parce que ça se voit. Ah, ça se voit pas tout de suite. Tant que c'est ascensionnel, on a comme une griserie, ça. On se dit, mais c'est formidable, ça va tout seul, vous vous rendez compte? Mais à un moment donné, quand on est vraiment au sommet ou presque au sommet, on regarde en disant, mais dis donc les éboulis, hein. Oh là là! Comment faire après? Et comment faire pour attraper? Ça sera jamais rattrapable. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et on ne reviendra jamais à l'âge de 20 ou 30 ans. C'est pas possible, quand on a bien sûr le double. Donc l'enfant sacrifié sur l'autel de la réussite sociale des parents, avec peu, je voudrais vous dire, c'est le principe que beaucoup de chrétiens ont vécu, je voudrais vous dire, avec peu on peut faire beaucoup. Avec la grâce de Dieu, on peut faire beaucoup. Et quelquefois, on pourrait peut-être mettre ça à l'inverse, avec beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Vous savez, quand Paul dit « J'ai tout reçu de Dieu », L'Éternel a pourvu à tous mes besoins. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, mais c'est vrai. Ouais. Priez pour qu'il y ait des jeunes pasteurs qui se lèvent, parce que un des obstacles, c'est que quand on propose à un jeune pasteur ou un jeune couple qu'ils seront payés, oui, eh bien ils se disent, moi je veux pas être pasteur, parce que si c'est pour vivre comme ça, naturellement. Ben oui, mais moi je voudrais vous dire, et je pense que notre frère pasteur aussi est là pour dire, mais avec rien, le Seigneur nous donne tout. La multiplication des pains, ça existe. On n'a jamais manqué de rien. On a élevé 3 enfants qui ont fait des études et qui maintenant sont dans la vie. Et on n'a jamais manqué de rien. Et nous, nous disons avec mon épouse, mais nous sommes véritablement heureux. Parce que si on s'est occupé des autres, eh bien le Seigneur s'est occupé de nous. Eh oui. Et ça, je voudrais vous le dire parce que c'est un encouragement pour les parents. N'ayez pas peur de manquer. N'ayez pas peur de perdre. Parce que c'est en perdant qu'on gagne. Je commence à m'agiter, hein. Bon, je vais bientôt finir. Ce qui est important, c'est d'inculquer à nos enfants la valeur de l'effort. Si on pense que maintenant, avec tout le monde dans lequel on est, il suffit d'appuyer sur un bouton et vous allez gagner l'euro million, des choses comme ça, le grattage, le chiffonnage, enfin bon. Moi, j'y connais rien. Vous voyez la connaissance que je peux avoir en la matière des jeux. Hein. Mais toujours est-il que si vous pensez que gagner de l'argent, c'est ne rien faire, eh bien là, on se trompe. Hein. Il y a la valeur de l'effort. Et qu'est-ce que l'on est heureux quand on a fait un effort et que l'on a obtenu ce qu'on a désiré. Parce qu'on sait que non seulement il y a la valeur pour nous-mêmes de ce que l'effort nous avons fait, mais moi, j'y vois toujours la grâce de Dieu, que c'est Dieu qui a ouvert les portes pour nous enrichir. De l'enfant sacrifié sur l'autel, il y a la démission des parents. C'est laisser pousser les mauvaises herbes ou les herbes folles dans le cœur de nos enfants. Si vous avez un jardin, vous êtes très attentif à enlever vous savez, toutes ces herbes mauvaises. Là. Eh bien, vous savez, dans notre maison, il y a un jardin. C'est le jardin de la famille. Il est plus important que celui qui est à l'extérieur. Et je suis sûr que tout jardinier conséquent, eh bien, il fait nettoyage au printemps et il y revient plusieurs fois. Hein, c'est vrai. Et pour nos enfants, c'est la même chose. Faut pas laisser passer les herbes folles. Regardez ce qu'il est dit dans un texte du livre des Proverbes. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais l'éducation l'en éloignera. Une éducation normale, bien sûr. Minimiser, relativiser, le conformisme ambiant, le oui à tout est une chose mauvaise parce que l'enfant, il doit apprendre qu'il y a des limites, qu'il y a des normes, qu'il doit grandir dans un cadre et ça sera pour son bonheur, naturellement. Et ne pas confondre fermeté avec sévérité. Dans le passé, on a entendu tellement d'histoires d'enfants qui ont été élevés avec une manière tellement sévère par leur père ou leur mère. C'est pas ça, hein. Non. La fermeté, c'est une disposition d'esprit, mais une disposition d'esprit qui est à la fois lucide, dans une fermeté aimante, pleine de tendresse. Et là, à ce moment-là, ça marche, vous verrez, il n'y aura pas de problème. Et pour l'essentiel, fermeté pour l'essentiel et souplesse pour le secondaire. Il y a bien des choses que, si on doit faire la guerre à tout, vos enfants n'y vivront pas, ça c'est sûr. Parce que la responsabilité et la liberté, ça s'apprend, tout simplement. Et je finis. Parce que l'écueil dans tout ça, c'est de tout laisser faire ou de ne rien laisser faire. Et il y a un juste milieu. C'est l'équilibre. Parce que les deux extrêmes sont dangereux. Dernière chose, les fausses compensations pour nos enfants. Dans un monde où nous sommes appelés, où il y a un appel à toutes sortes de choses, c'est la permissivité coupable à travers des choses que l'on sait en tant que parents mais qu'on laisse faire, les cadeaux dont nos enfants ou nos petits-enfants sont recouverts, moi quelquefois ça m'effraie. Les jours de Noël, je me dis, nous on n'avait pas grand-chose. Mais c'est pas grave, on fait pas de comparaison. Hein. Et on avait déjà beaucoup à l'époque, parce qu'on avait des bons parents. Mais quand on voit aujourd'hui les petits-enfants comme... Et il faut presque passer 8 jours avant la veille de Noël pour faire les cadeaux dans tous les magasins. Vous vous rendez compte? Alors, les cadeaux que l'on fait, l'argent et tous ces autres pansements artificiels pour compenser, pour déculpabiliser les parents et qui ne sont que de faux apaisements. Voilà. Et moi, je pense particulièrement aux enfants qui sont dans la séparation entre les deux. Et là, il y a naturellement, eh bien, certainement une culpabilité. Alors on leur donne, en pensant que c'est parce qu'on va leur donner de l'argent, des cadeaux, et ceci et cela, temporairement. Mais les enfants n'ont pas besoin de cela. Ils ne veulent pas ça, ils veulent de l'amour. Et il y a une chose qu'ils veulent, c'est que papa et maman, ils soient ensemble. Vous allez me dire, je suis quand même d'un autre âge. Hein. J'ai passé les 20 ans. Ça, c'est sûr. On est presque des dinosaures. Mais quand même, ce sont des principes qui se vérifient. Et le monde dans lequel on va, eh bien, moi, j'ai quelques craintes pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas la peine de donner des pansements qui sont là, que c'est de l'artificiel, tout ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Je veux pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais attendez, on n'achète pas l'amour. Tout simplement, c'est le livre des cantiques qui nous lit. Parce que celui qui veut acheter l'amour ne va recueillir que du mépris à un moment donné. Et puis, l'irremplaçable pierre d'angle de la famille heureuse, il y a un mot, c'est le mot amour, c'est le mot affection, c'est le mot tendresse, communiquer et partager, c'est le vivre ensemble familial. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on se retrouve avec nos enfants et avec nos petits-enfants? C'est vrai, on est heureux. Quelquefois, je vous le dirai, quand ils partent, on est content aussi, parce qu'on est fatigué, mais... C'est entre vous et moi. Non, mais là, c'est tout autre chose. C'est la fête pendant 2 ou 3 jours, c'est vrai. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et papy, mamie, ils sont contents hein, de venir et tout ça. Mais je veux dire que, quelque part, ça, c'est un trésor. Et le trésor qui va nous rester, c'est la famille. Quand on arrivera au point de partir, eh bien, on aura perdu notre travail, naturellement. On aura perdu tout cela. Et puis, toutes nos ambitions et tous nos rêves et tous nos fantasmes et tout ça, ça aura disparu. Mais il restera ceux et celles autour de nous, que nous avons aimé, que nous aimons encore, et qu'ils nous aiment. Ça, c'est quelque chose. Conclusion, c'est se parler, et de ne pas toujours laisser, comment elle s'appelle, Jean-Pierre Pernaut, ou comment elle s'appelle, celle qu'on voit souvent là, à la télévision, Claire Chazal, voilà, je vois que monsieur est intéressé par le télévisuel. Très bien. Bon, toujours est-il que quand on est à table en famille, non, c'est Jean-Pierre qui parle ou c'est Claire qui parle. Tais-toi. Mange. C'est se parler entre nous. Quand un enfant, il a de la peine sur le cœur, il faut qu'il puisse demander à papa, maman, maman peut-être en particulier, monter dans la chambre et de dire, eh bien voilà, j'ai mes petites peines d'enfant et il faut que la maman soit prête, il faut que le papa soit prêt. Se parler. D'avoir l'exemple des parents qui s'aiment, des parents qui prient ensemble. Ah! Qui prient ensemble pour eux, pour leurs enfants. Combien de fois nous avons eu nos enfants quelquefois qui écoutaient aux portes quand ils entendaient qu'on était en train dans la chambre en train de prier. Papa et maman, ils prient pour nous. Vous vous rendez compte? Ils nous le disent maintenant. Ça nous fait un drôle d'effet. Ils ont 35, 40 ans maintenant. Dites donc, hein. La valeur primordiale de l'exemple, dont les fruits, ou le fruit par excellence, sera d'en faire des hommes et des femmes pour Dieu. Pour Dieu, mais au service des autres, ils seront à ce moment-là, selon la parole que Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et moi, je termine sur la plus belle de toutes les paroles que nous avons dans la Bible. Écoutez bien, c'est Paul qui le dit. Et maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette parole. Oui, Seigneur, quelquefois elle peut nous chambouler, elle peut remuer un peu notre cœur. Mais Seigneur, moi ce que je crois, c'est que ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est toi, Jésus, ce que tu nous dis. C'est ta parole qui nous dit. Mais elle nous dit non pas pour nous réprimander. Elle nous dit tout simplement pour que nous soyons heureux. Et que si nous mettons ces choses et leur donner la véritable place, la véritable valeur, eh bien nous serons heureux, nos enfants seront heureux, et puis la suite, il y aura une bénédiction pour ceux qui viendront après. Et nous te bénissons et nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.